Radio Kapi. Oh, Kapi. À la présentation du journal, Gisèle Cage.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de ce journal. On commence tout de suite avec le grand titre de ce matin. Apparition très attendue de l'ancien président Joseph Kabila. Après plusieurs jours passés loin des projecteurs, il a fait une apparition remarquée hier jeudi à Goma. Arrivé discrètement en début de semaine, c'est finalement dans sa ferme de Kinyogoté qu'il a accueilli des responsables religieux de diverses confessions pour un échange axé sur la paix et la cohésion sociale. Crise humanitaire en RDC. Kinshasa alerte la communauté internationale face à une situation d'urgence extrême entre conflits armés persistants à l'est et catastrophes naturelles à répétition. La RDC est au bord de l'asphyxie humanitaire. Des millions de Congolais vivent dans une précarité alarmante, privés de tout. Seul cri d'alarme lancé par la ministre des Affaires sociales devant une délégation de parlementaires européens en visite à Kinshasa. Choléra au Maniema face à l'urgence sanitaire. La régie des eaux s'exprime. Entretien exclusif dans ce journal avec Michel Tijic, directeur provincial, sur les efforts de prévention et de riposte menés par l'entreprise publique de distribution d'eau. C'est tout pour les titres. Coup d'étonneur dans le paysage politique congolais. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est désormais à la disposition du procureur général près la Cour de cassation. L'Assemblée nationale a donné son feu vert tard dans la nuit de jeudi pour l'ouverture d'une instruction judiciaire à son encontre. Au cœur de l'affaire, un montant de 39 millions de dollars destinés à la construction d'une nouvelle prison à Kisangani dans la province de la Tchopo. Le ministre est soupçonné d'avoir ordonné le versement anticipé de 19 millions de dollars dans le cadre d'un marché de gré à gré qui, selon les accusations, n'avait pas encore reçu l'aval de l'autorité compétente. Une affaire explosive qui place le patron de la justice sous les projecteurs de la justice elle-même. Michel Kifindangoy nous fait le point.
Dans son rapport présenté au cours de la plénière de ce jeudi, la commission spéciale soutient l'autorisation de l'instruction contre le ministre de la Justice.
Les faits mis à charge du ministre d'État, ministre de la Justice, sont d'une extrême gravité aux yeux de la loi congolaise et qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences des droits.
Puis s'en est suivi un débat contradictoire de plusieurs heures.
Combien que Mutamba a détourné parce qu'il y a un conflit entre le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Notre pays souffre de corruption. Et aujourd'hui, nous allons refuser ici qu'un ministre aille juste donner ses moyens de défense à la justice.
À l'issue du débat, l'Assemblée nationale a approuvé la demande du procureur général près la Cour de cassation, comme l'affirme ici le président Vital Kamerhe.
L'Assemblée nationale accorde au procureur général après la Cour de cassation l'autorisation d'instruction à charge de M. Mutamba Tongonga Constant, ministre de la Justice et garde des Sceaux.
Notez qu'après audition du ministre, si le procureur parvient à établir sa culpabilité, il reviendra à l'Assemblée nationale pour solliciter la levée des immunités de Constant Mutamba.
Justice encore, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, se retrouve désormais dans le viseur de la justice congolaise. Le procureur général, près la Cour de cassation, a instruit un nouveau réquisitoire sollicitant l'autorisation de poursuite à son encontre. En réponse, le bureau de l'Assemblée nationale a mis en place une commission spéciale chargée d'auditionner à la fois le procureur Firmin Mvonde et le député national Nicolas Kazadi. Ce dernier est poursuivi pour révélation de secrets d'État et propagation des fausses informations liées à des détournements présumés de fonds publics. Écoutons à ce sujet le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Ndjoli, au micro de Michel Kifindangoy.
En date du 4 mars 2025, Monsieur Nicolas Kazadi Zouji a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a révélé la gabegie financière à outrance caractérisée par de nombreux maux qui gangrènent la gouvernance publique. À cet égard, il sied de relever que le point fort de son interview épingle grosso modo le mot suivant. La culture de la jouissance, caractérisée par la dilapidation des fonds publics, le projet improductif financé pour détourner le fonds public, la création intempestive des établissements publics en violation de l'orthodoxie budgétaire, il en a dénombré une cinquantaine dont certains ne fonctionnent pas. Ces faits paraissent constituer les infractions des révélations des secrets d'État et des propagations de faux bruits prévus et punis respectivement par les articles 73 et 199 bis du Code pénal livre 2, tels que modifiés et complétés à ces jours.
Comme indiqué précédemment, c'était une apparition très attendue. L'ancien président Joseph Kabila s'est montré en public hier jeudi à Goma, dans la province du Nord Kivu. Une première depuis son arrivée discrète dans la ville, actuellement sous tension en raison de la présence des rebelles de l'AFC M23, restés jusque-là à l'écart, loin des caméras et des projecteurs. Dimanche dernier, l'ancien chef de l'État a finalement brisé le silence. Cette sortie a permis aux journalistes sur place de capturer les toutes premières images de sa présence sur le sol gomatracien. Benjamin Mudumbi nous en dit plus dans ce reportage.
Le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, qui s'est installé depuis quelques jours à Goma, a échangé ce jeudi avec les responsables religieux de différentes tendances dans sa ferme de Kinyogoté, à environ 10 km de la ville sur l'axe Sake, au bord du lac Kivu. À l'issue de l'audience, le pasteur Joseph Amourani, président du regroupement de confessions religieuses du Nord Kivu, a dans une brève déclaration expliqué que l'ancien président a exprimé son souhait de voir la paix revenir dans l'est du pays et sur l'ensemble du pays. Les responsables religieux lui ont également demandé de jouer véritablement son rôle d'ancien président ou bien celui de la sagesse afin que la paix revienne en RDC. D'après nos sources, Joseph Kabila compte poursuivre ses consultations avec toutes les couches sociopolitiques. Cette première sortie de Joseph Kabila, accusé par Kinshasa d'être responsable de cette rébellion, est largement commentée tant au niveau local que sur la toile.
La journée internationale des casquets bleus des Nations Unies, on en parle encore dans ce journal. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a rendu un vibrant hommage aux femmes et aux hommes engagés sur le terrain. Elle a salué le courage et le dévouement de ces soldats de la paix qui, chaque jour, risquent leur vie pour protéger les civils congolais, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Un message fort, empreint de reconnaissance à l'endroit de celles et ceux qu'elle qualifie de courageux et de dévoués. Écoutons un extrait de son message sélectionné par Grace Hamzati.
En effet, depuis plus de deux décennies, il contribue à préserver la paix et à restaurer l'espoir ici, en République démocratique du Congo. Cet engagement a un prix. En RDC, de nombreux casques bleus ont consenti au sacrifice ultime, loin de chez eux, au service de la paix. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'eux avec émotion et gratitude. Nous honorons leur mémoire et affirmons notre volonté de poursuivre leur œuvre. Leur mission n'est pas facile. Les menaces sont nombreuses. Groupes armés, désinformation, actes de violence ciblés. Pourtant, ils restent présents, solidaires, aux côtés du peuple congolais, dans les zones les plus exposées, là où les besoins sont les plus urgents. Le thème de cette année, l'avenir du maintien de la paix, nous interpelle toutes et tous. Il nous rappelle que pour faire face à des défis de plus en plus complexes, les casques bleus doivent disposer des moyens, du soutien et de la reconnaissance qu'ils méritent. Nous n'oublierons jamais les casques bleus tombés au service de la paix. Et ensemble, avec détermination, nous poursuivrons leur combat pour un avenir de paix.
Face à une crise humanitaire d'une ampleur alarmante, la République démocratique du Congo lance un appel pressant à la communauté internationale. Entre guerres d'agression persistantes et catastrophes naturelles à répétition, le pays est à bout de souffle devant une délégation des parlementaires européens en visite à Kinshasa. La ministre des Affaires sociales, des Actions humanitaires et de la Solidarité nationale n'a pas mâché ses mots. Elle dresse un tableau sombre de la situation des millions des Congolais. Les Congolais vivent dans une misère extrême, dans des conditions de vie plus que précaires. Billy Yvan Lutumba revient sur cette déclaration et les enjeux d'une mobilisation internationale urgente.
Comme dit, c'est avant tout cette guerre que mène le Rwanda au travers des supplétifs du M23 qui exacerbent cette vie désolante, déplore Nathalie Aziz Amunana. Elle ajoute les inondations, vents violents, incendies et les naufrages. De décembre 2024 à mai 2025, les victimes issues des inondations et catastrophes naturelles, mentionne la ministre, sont des plus de 2080 à Kasangulu dans le Congo central, plus de 2600 au Kasaï central, le Kasaï oriental est en tête avec plus de 44 500 à Kabeakamwanga. À ceci, elle ajoute plus de 1400 dans le Sankuru et 5000 autres sinistrés dans la Tchopo après des conflits intercommunautaires. Plaidoyer de Aziza Mounana.
Faisons appel à la solidarité de nos partenaires internationaux, en particulier vous, l'Union européenne. Votre contribution sera déterminante pour renforcer ces actions humanitaires, permettra également d'améliorer l'accès aux soins médicaux, à l'eau potable, à la nourriture, ainsi qu'à l'éducation. Participera aussi à la reconstruction des infrastructures essentielles, les hôpitaux et les écoles.
Le ministère insiste aussi pour l'ouverture des couloirs humanitaires afin de venir en aide aux populations vivant dans des zones occupées par les rebelles. Réponse des parlementaires européens, ils s'engagent d'accompagner le gouvernement congolais dans cette lourde obligation.
Toujours en lien avec la situation humanitaire en Ituri, la crise humanitaire s'aggrave. Une nouvelle vague de déplacés afflue vers le site de Nyamusasi sur les rives du lac Albert. En cause, les récents affrontements entre la milice Convention pour la Révolution populaire dirigée par Thomas Lubanga et les forces armées de la RDC. Près d'un millier de personnes ont fui leur village, abandonnant tout derrière elles. Certaines ont perdu des proches, d'autres n'ont plus rien, si ce n'est l'espoir de survivre. Elles viennent s'ajouter aux plus de 8000 déplacés déjà présents sur les sites où les conditions de vie sont extrêmement précaires. Insécurité persistante, manque d'assistance, présence continue des groupes armés. La situation reste critique. Notre reporter Ezekiel Mouzalia s'est rendu sur place. Voici son reportage.
Et moi, émotion et tristesse, tels sont les sentiments qui se lisent sur les visages de ces nouveaux arrivants qui ont trouvé refuge dans les sites des déplacés de Nyamusasi à Chomia, au bord du lac Albert. Dépassés par des événements du 27 au 28 février, date du dénouement de la crise, cette femme se retrouve seule aujourd'hui après avoir perdu tous les membres de sa famille.
Quand la guerre a éclaté, nous avions commencé à fuir. Tous les membres de ma famille ont été tués. Mon père, ma mère et tous mes frères. Personne n'est arrivé ici. Ils sont tous morts.
Ces habitants sont entassés dans 4 hangars érigés dans les sites. Certains dorment à même les sols, exposés aux intempéries. D'autres se faufilent dans des abris de fortune où les conditions d'hébergement sont aussi précaires. C'est Maki.
Ces nouveaux venus sont localisés au niveau d'hangars. Ceux qui ont des petits-enfants, des nouveaux-nés, ils ont cherché les leurs dans les sites et ils sont dans des blocs.
D'autres familles des déplacés sont éparpillées dans d'autres sites, dans des églises ou encore dans des familles d'accueil. Des retours du site de Nyamusasi, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Retour à Goma, dans la province du Nord Kivu, où la vie tourne au ralenti. 4 mois après la prise de contrôle de la ville par la rébellion du M23, le quotidien des habitants semble figé dans les temps. Les banques restent fermées, l'aéroport est toujours paralysé et l'économie peine à redémarrer. L'insécurité, elle, s'est installée durablement, tandis que le chômage progresse, plongeant de nombreuses familles dans une profonde incertitude. Même la résilience légendaire des Gomatraciens est aujourd'hui mise à rude preuve. Dans ces climats tendus, les structures de santé souffrent elles aussi. Le docteur Michael, dont nous préservons l'anonymat complet, un médecin à Goma, témoigne des difficultés rencontrées dans la prise en charge des malades et du fonctionnement des hôpitaux. On l'écoute.
Avec l'avènement de la guerre, tout est devenu compliqué. Nous n'avons pas de banque, nous n'avons pas d'autres activités qui peuvent nous générer des moyens. Alors il y a beaucoup de malades qui viennent à l'hôpital et vous verrez quelqu'un n'aime pas me dire de s'acheter quoi manger. Nous, on donne le traitement, mais les malades guérissent difficilement parce qu'il faut signaler que la nourriture fait partie d'un traitement de choix lorsque le médecin a déjà fait tout ce qu'il faut. Même faire des examens. Vous verrez un examen même de 5$ devient compliqué. À l'intérieur des provinces, c'est la même chose. Alors, comment vont fonctionner les hôpitaux? Ça devient compliqué. On dirait nous sommes dans un coin. Même trouver quelque chose à manger devient compliqué. La population souffre à un niveau très exponentiel. Si vous vivez la situation que nous sommes en train de vivre, Franchement, nombreux peuvent fuir le pays.
Dans le cadre de notre série spéciale sur l'épidémie de choléra qui frappe la province du Maniema, focus aujourd'hui sur les gestes essentiels à adopter au sein des communautés pour stopper la propagation de la maladie. À ce jour, 8 des 18 zones de santé que compte la province sont déjà touchées. Une situation préoccupante qui appelle à une mobilisation collective et à des comportements responsables. Un reportage signé Florence Kizalunga.
Le choléra étant une maladie contagieuse et qui se propage rapidement, les communautés sont appelées à l'observance stricte de mesures édictées par les services de santé pour se protéger et couper ainsi la chaîne de transmission. Le ministre provincial de la Santé insiste sur le respect de l'hygiène. Docteur Kingombe Chomba Alexis.
L'épidémie étant déjà déclarée dans la province, ce qui est important, c'est d'observer l'hygiène. L'hygiène est très capitale parce que sans l'hygiène, nous pouvons assister à des contaminations. C'est-à-dire, il faut se laver régulièrement les mains. Après les toilettes, il faut se laver les mains avec du savon. Si vous n'avez pas de savon, on peut même appliquer du cendre. Et en plus, si dans la communauté, vous voyez votre frère qui est à côté en train de faire la diarrhée, il faut vite l'amener au structure de santé ou au poste de santé le plus proche. Et au centre de santé, je veux dire, si vous n'avez pas l'unité de traitement, il faut directement référer le malade à l'unité de traitement indiquée pour la bonne prise en charge.
Pour rappel, la province du Maniema a déjà enregistré plus de 300 cas avec des décès sur l'ensemble de la province à la 20e semaine de cette épidémie de choléra. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Cap sur l'actualité économique, c'est jeudi 29 mai à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Monsieur Sidi Ould Tah, ressortissant mauritanien, a été élu président de la Banque africaine de développement. Il succède ainsi au Nigérian Anki Wumi Adesina après plusieurs années à la tête de cette institution panafricaine majeure. Mais qui est ce nouveau visage de la BAD? Quel est son parcours et quel défi l'attend à la tête de cette institution stratégique pour le développement du continent? Élément de réponse dans ce résumé préparé par Alain Hirung et présenté par Étienne Lissoumbou.
Sidi Ould Tah, 61 ans, n'est pas un inconnu dans les cercles de développement en Afrique. C'est un produit de la technocratie mauritanienne avec une riche carrière à cheval entre Nouakchott et les institutions internationales. Né en 1964 à Merdedra, dans le sud-ouest de la Mauritanie, Sidi Ould Tah appartient à cette génération de hauts fonctionnaires façonnés dans les règles de l'art. Formation académique solide, doctorat en sciences économiques à Nice, DA à Paris 7, complété par des programmes exécutifs à Harvard, à la London Business School ou encore au Swiss Finance Institute. La langue nationale mettait une barrière. Il parle couramment l'arabe, le français et l'anglais et possède des notions de portugais et l'espagnol. Des atouts linguistiques pour évoluer avec aisance dans les milieux diplomatiques et financiers. En avril 2015, une nouvelle page s'ouvre pour Sidi Ould Tah lorsqu'il est élu président de la BADEA, Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique. Cette banque, créée en 1973 par le pays de la Ligue Arabe en Afrique subsaharienne, est basée à Khartoum, mais rayonne sur tous les continents. Son élection à l'unanimité de gouverneur arabe est une consécration pour les Mauritaniens. Il devient le premier responsable d'Afrique de l'Ouest à diriger cette institution. Il prend ses fonctions en juillet 2015, apportant à ses bagages sa longue expérience bilingue culturelle entre monde arabe et Afrique noire.
Actualité internationale. À Gaza, la faim pousse à l'extrême. Des milliers de Palestiniens affamés et désespérés ont pris d'assaut un entrepôt du programme alimentaire mondial. Le pillage a tourné au drame. Au moins 2 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées, selon l'agence onusienne qui parle d'un incident tragique. Le PAM tire la sonnette d'alarme et appelle à un accès humanitaire urgent et sécurisé alors que l'aide reste bloquée par Israël depuis près de 2 mois. La semaine dernière, un convoi avait pu franchir les lignes, une première depuis les débuts du blocus. Mais pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ce n'était qu'une goutte d'eau. Il avertissait déjà la faim, le désespoir et l'incertitude de l'acheminement de la prochaine aide alimentaire créent une situation de plus en plus instable.
L'invité.
Pour clore notre série consacrée à la lutte contre le choléra au Maniema, nous recevons aujourd'hui Michel Tijik, directeur provincial de la Régie des Eaux. Il revient sur le rôle crucial que joue son entreprise dans la prévention et la riposte contre cette épidémie, notamment à travers l'accès à l'eau potable et la sensibilisation des populations. Un entretien mené par Florence Kizalunga.
Monsieur Michel Tijik, bonjour.
Bonjour, madame Florence.
Monsieur le directeur, l'un des facteurs à la base du choléra dans la ville des Kindus et même dans d'autres territoires, c'est le manque d'eau potable. Qu'est-ce que la régie des eaux fait et doit faire pour que ces populations-là obtiennent de l'eau potable?
Merci beaucoup, madame, pour la question. Je pense que la régie des eaux en est consciente et sait que le choléra est une maladie dont l'origine est beaucoup plus liée à la consommation d'une mauvaise qualité de l'eau. C'est comme ça que dans sa mission, dans ses objectifs, de donner de l'eau potable et en quantité suffisante à la population, la régie des eaux, chaque jour, elle fait toujours ce que nous appelons les contrôles de qualité en amont, ça veut dire à la sortie des unités de production, mais aussi en aval, donc chez les consommateurs. Donc pour répondre à la question directement, par rapport au premier aspect qualitatif, nous contrôlons la qualité de l'eau que nous sortons de l'usine et jusqu'au niveau des consommateurs.
Dans les cas actuels où la ville est envahie par cette maladie, nous demandons la contribution de la régie des eaux pour lutter contre le choléra dans la ville et même dans la province.
Voilà, comme je venais de le dire, notre contribution serait d'encourager la population de se rassurer de la qualité de l'eau qu'ils sont en train de consommer. Alors, nous le faisons et nous avons besoin peut-être d'alerte au cas où il y a un problème au niveau de l'aval, ça veut dire chez les consommateurs, et que nous avons l'information, nous pouvons y arriver sans faute. Ça signifie quoi? Nous avons en main ici un bulletin d'analyse des qualités. Ça veut dire quand nous sortons de l'usine, nous contrôlons si notre eau contient une bonne quantité de résiduels en chlore, parce que le chlore c'est un désinfectant. Il a pour rôle de pouvoir détruire les micro-organismes, les germes, notamment les germes qui sont responsables de choléra. Nous nous rassurons aussi que lorsqu'elle est transportée au travers nos canalisations, qui sont les tuyaux, avant d'arriver chez les consommateurs, que cette eau de résiduels est dans les proportions admissibles, de sorte que même si l'abonné les consomme à ce niveau, il n'aura pas de problème. Ce qui nous rassure que l'eau que nous distribuons est de bonne qualité.
Vous encouragez la population à consommer de l'eau de la régie des eaux, alors que la majorité n'a pas accès à cette eau de la régie des eaux.
Oui, madame, certainement nous les encourageons à le faire, parce que nous savons que le travail que nous faisons, c'est pour les protéger. Nous devons nous rassurer de la qualité de cette eau que nous leur donnons. Malheureusement, il s'est fait que tout le monde n'a pas accès, comme tu venais de le dire, n'a pas accès à notre eau. Ça, c'est un défi que nous sommes en train de chercher à résoudre depuis un temps. La raison, c'est quoi? C'est que la capacité de production est faible de l'usine de traitement d'eau de Kindu, notamment les trois petits modules que nous avons au niveau du fleuve, nous avons au niveau de Luama, mais également au niveau d'Alunguli. Ce qui fait que nous revenons sur notre plaidoyer que nous avions fait autrefois auprès de l'autorité provinciale, que nous avons vraiment besoin de pouvoir augmenter la capacité de l'unité de production pour que nous soyons en mesure de pouvoir atteindre plus de personnes afin que tous soient en mesure de consommer une eau de qualité, et ce qui aiderait à la ville, à l'autorité, de pouvoir aider sa population à échapper à ce genre de pandémie.
Alors, monsieur Michel, vous, en tant que service technique de l'État, c'est pas tout le monde qui a accès à l'eau potable. Maintenant, quel conseil que vous donnez à ces gens qui habitent très loin de vos bornes fontaines pour pouvoir consommer de l'eau potable?
En tout cas, les Français disent que la vie n'a pas de prix, hein, donc nous les encourageons à fournir plus d'efforts, d'atteindre les bonnes fontaines qui sont à proximité de chez eux, même si ça va leur demander de payer un peu quelque chose par moto ou par vélo pour aller se rassurer de la qualité de l'eau qu'ils vont puiser à la bonne fontaine. Parce que consommer, comme on l'a dit, l'eau d'une source qui n'est pas sécurisée, c'est très dangereux, ça peut les exposer à des maladies, notamment au choléra, et ça leur demandera encore de payer plus cher et en argent, parfois malheureusement même en vie humaine.
Alors, pendant cette période, nous espérons que la régie des eaux va donner régulièrement de l'eau à la population pour faire face au choléra.
Affirmatif, nous faisons le nécessaire, donc nous nous rassurons que notre stock en gazoil est disponible. Dans la mesure du possible, nous les réalimentons. Le jour où nous avons le courant électrique, nous nous rassurons de fonctionner 2, 3, 4 heures, si possible, et dès qu'il y a coupure, nous démarrons aussitôt notre générateur pour remettre l'usine en service, de façon à donner de l'eau un peu plus loin, partout là où se trouve notre réseau, pour que les abonnés qui sont un peu plus éloignés viennent s'approvisionner au niveau de nos bonnes fontaines.
Monsieur Michel Tijik, merci.
Merci beaucoup, madame.
Michel Tijik, directeur provincial de la régie des eaux Maniema, s'est confié au micro de Florence Kizalunga. Il détaille les actions entreprises par son institution pour faire face à l'épidémie de choléra qui frappe la province depuis plusieurs jours. Et voilà, ainsi s'achève cette édition de votre journal. Merci infiniment de nous avoir accordé votre temps et votre attention tout au long de cette cette session d'information. N'oubliez pas que l'information continue et que nous serons ravis de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle édition. En attendant, prenez soin de vous et surtout restez connectés.